Audiolib présente Sous les vents de Neptune de Fred Vargas. Lu par François Berland. Chapitre 1.
Adossé au mur noir de la cave, Jean-Baptiste Adamsberg considérait l'énorme chaudière qui, l'avant-veille, avait stoppé toute forme d'activité. Un samedi 4 octobre, alors que la température extérieure avait chuté aux alentours de 1 degré, sous un vent droit venu de l'Arctique. Incompétent, le commissaire examinait la calandre et les tuyauteries silencieuses, dans l'espoir que son regard bienveillant ranime l'énergie du dispositif, ou bien fasse apparaître le spécialiste qui devait venir et qui ne venait pas. Ce n'était pas qu'il fût sensible au froid, ni que la situation lui fût désagréable, au contraire. L'idée que parfois le vent du nord se propulsa directement sans escale ni déviation depuis la banquise jusqu'aux rues de Paris, 13e arrondissement, lui donnait la sensation de pouvoir accéder d'un seul pas à ces glaces lointaines, de pouvoir y marcher, y creuser quelques trous pour la chasse aux phoques. Il avait ajouté un gilet sous sa veste noire, et s'il n'avait tenu qu'à lui, il aurait attendu sans hâte la venue du réparateur tout en guettant l'apparition du museau du phoque. Mais à sa manière, le puissant engin terré dans les sous-sols participait pleinement à l'élucidation des affaires qui convergeaient à toute heure vers la brigade criminelle, réchauffant les corps des 34 radiateurs et des 28 flics du bâtiment. Corps à présent engourdi par le froid, engoncé dans des anoraks, s'enroulant autour du distributeur à café, appliquant leurs mains gantées sur les gobelets blancs. Ou qui désertaient carrément les lieux pour les bars alentour. Les dossiers se pétrifiaient à la suite. Dossiers primordiaux, crimes de sang, dont l'énorme chaudière n'avait que faire. Elle attendait, princière et tyrannique, qu'un homme de l'art voulût bien se déplacer pour se mettre à ses pieds. En signe de bonne volonté, Adamsberg était donc descendu lui rendre un court et vain hommage, et trouvait là surtout un peu d'ombre et de silence, échapper aux plaintes de ses hommes. Ses lamentations, alors qu'on parvenait à maintenir une température de 10 degrés dans les locaux, auguraient mal du stage ADN au Québec, où l'automne s'annonçait rude, moins 4 degrés hier à Ottawa et de la neige déjà par-ci par-là. Deux semaines ciblées sur les empreintes génétiques, salive, sang, sueur, larmes, urine et excrétions diverses, à présent capturées dans les circuits électroniques, triées et triturées, toute liqueur humaine devenue véritable engin de guerre de la criminologie. À 8 jours du départ, les pensées d'Adamsberg avaient déjà décollé vers les forêts du Canada, immenses, lui disait-on, trouées de millions de lacs. Son adjoint, Danglars, lui avait rappelé en maugréant qu'il s'agissait de fixer des écrans et en aucun cas les surfaces des lacs. Cela faisait un an que le capitaine Danglars maugréait. Adamsberg savait pourquoi, et il attendait patiemment que ce grondement s'estompe. Danglars ne rêvait pas au lac, priant chaque jour pour qu'une affaire brûlante cloue sur place la brigade entière. Depuis un mois, il ruminait son décès prochain au cours de l'explosion de l'appareil au-dessus de l'Atlantique. Cependant, depuis que le spécialiste qui devait venir ne venait pas, son humeur s'améliorait. Il misait sur cette panne impromptue de chaudière, espérant que ce coup de froid désamorcerait les fantasmes absurdes que faisaient naître les solitudes glacées du Canada. Adamsberg posa sa main sur la calandre de la machine et sourit. Danglars aurait-il été capable de bousiller la chaudière, prévoyant par avance ses effets démobilisateurs? De retarder l'arrivée du réparateur? Oui. Danglars en était capable. Son intelligence fluide se glissait dans les mécanismes les plus étroits de l'esprit humain. À condition toutefois qu'il se cale sur la raison et la logique. Et c'est bien sur cette ligne de crête entre raison et instinct que, depuis des années, Adamsberg et son adjoint divergeaient diamétralement. Le commissaire remonta l'escalier à vis et traversa la grande salle du rez-de-chaussée où les hommes évoluaient au ralenti, lourdes silhouettes épaissies par les écharpes et les pulls en surcharge. Sans qu'on en connaisse du tout la cause, on appelait cette pièce la salle du concile, en raison sans doute, pensait Adamsberg, des réunions collectives qui s'y déroulaient, des conciliations ou bien des conciliabules.